Tu fais quoi dans la vie ?
Tu fais quoi dans la vie ?
Tu fais quoi dans la vie ?
Biologiste.
Travailleur social.
Agriculteur.
Frigoriste.
Menuisier.
Sophrologue.
Kinésithérapeute.
Chercheur.
Graphiste.
Cadreur.
Chaudronnier. Tu fais quoi dans la vie ?
Bonjour Diane, bonjour auditeurice. Quel plaisir de vous retrouver ce mercredi pour notre émission « Tu fais quoi dans la vie ?». Les beaux jours se rapprochent, on imagine déjà les futures rencontres en extérieur, les réunions de famille ou entre amis qui vont refleurir. Et pour vous donner des idées à la fois créatives et ludiques pour ces rendez-vous du printemps, aujourd'hui nous recevons Baptiste, qui vient de nous parler de l'armoire à jeux. L'armoire à jeux, vous connaissez ? Si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir cette belle initiative à deux pas de chez vous.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Diane.
Merci d'être là. Nous t'avons invité dans les studios de Radio B pour que tu nous fasses rêver. Tu fabriques et fais vivre des grands jeux et on voudrait en savoir un petit peu plus. En quoi consiste ton activité ?
C'est vaste. On fait autant de la création ludique que l'animation sur des publics qui vont de la toute petite enfance au troisième, quatrième âge. Donc, on accompagne aussi toutes sortes de projets. Donc, un exemple type, c'est qu'on a fait des radeaux sur la Ressouze avec un centre social il y a 4 ans. Et on a monté un espace extérieur l'année dernière. Donc, on a toute l'activité ludique et puis tout ce qui nous a fait notre cœur de métier, c'est-à-dire la médiation envers les gens, aller à la rencontre des publics. Et quelque part, le jeu était un bon prétexte, mais après, on cherche toute forme.
Nous, on s'intéressait au côté conception du jeu, puisque c'est Jimmy qui avait souhaité découvrir aussi ce métier. Donc, je rentre un peu plus sur cette partie-là. C'est toi qui conçois les jeux ? C'est le public qui est accueilli ? Comment ça se passe ?
On a tous ces formats-là, en fait. On travaille sur des projets, là, on peut créer des jeux avec des gens, là, où, sur une demande, sur un contexte. Je voudrais travailler sur des jeux du monde, et bien on va travailler avec le public là-dessus. Et on a depuis 10 ans, nous, une activité créatrice chez nous, donc sur des jeux ou des espaces de jeux. Donc on a un village des doudous qui fait 500 mètres carrés avec des maisons typées pour le travail, hôpital, crèche, qui a un gros espace de jeu, mais qui est une création de jeu quelque part. Et on crée aussi toutes sortes de jeux. Depuis 12 ans, on a le même. Nous, on était des rôlistes à la base, donc des pratiquants de jeux de rôle. Et on a fait un jeu qu'on appelle, nous, jeu d'aventure, qui est le tout début du jeu de rôle en figurine. Donc vraiment, ça a toujours été l'idée de viser le public, donc de savoir un peu à quel public on voudrait travailler et d'adapter le jeu là-dessus. Donc on est créateur de jeux, mais pas dans le sens qu'on pourrait l'entendre si on s'attend à avoir un créateur de jeux de société. On n'en a jamais créé, édité, qui pour nous sont des métiers bien différents, et il y a des très bonnes références sur le département là-dessus. On les côtoie, le milieu ludique est un très petit milieu, donc on discute beaucoup entre nous, et je trouve ça avec beaucoup de bienveillance justement.
Comment on accompagne des jeunes pour qu'ils arrivent à créer ces jeux-là ? Il y a une préparation en amont ? Ça se fait en plusieurs ateliers ?
Oui, EducPop, l'idée chez nous a toujours été là-dessus, la coéducation et puis l'accompagnement. Donc on réfléchit d'abord à leur projet, on réfléchit à ce qu'ils veulent mettre en place. Donc on va tester différentes sortes de jeux, différents types de pratiques. Et après, avec ça, on essaie vraiment de rester juste technicien, nous, dans notre rôle. En les accompagnant sur le matériel, en les accompagnant sur la forme qu'il peut y avoir, en les accompagnant sur ce qu'ils voudraient mettre en place. Donc on est vraiment là-dessus, sur le respect de la parole des personnes et sur d'être le moins indispensable possible. Si à la fin ils sont autonomes, on a rempli notre rôle, quelque part. Et surtout, on va pouvoir... On plante des petites graines, nous, dans la société. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'il est autonome, il n'a plus besoin de nous, donc il va remonter un autre projet. Et petit à petit, on devient de plus en plus citoyen aussi de sa ville, son quartier, sa petite communauté.
Donc du coup, il y a un suivi après, peut-être ?
Alors oui, souvent, parce que créer le jeu, c'est bien. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il sorte. Donc il faut qu'à un moment, il puisse être utilisé. C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur quelle est votre cible, qu'est-ce que vous avez envie de faire et pourquoi. Si le jeu dort dans un placard, si le jeu n'est pas utilisé par la suite, on a perdu une partie de mise en pratique. Ça fait 12 ans, nous, qu'on travaille dans la rue, au contact direct des publics qui sont très différents. Donc, on a vraiment une approche la plus brute possible sur nos animations en disant il faut que tout le monde puisse l'utiliser et il faut que ça soit utile à quelque chose. Donc, quand on est sur notre travail de réflexion et de construction ou de préparation, on est vraiment là-dessus avec les publics en leur disant on va aussi tester ça. Il y a eu des projets qui se sont menés dans les années, à les présenter dans les jeux, dans les festivals, justement d'aller aboutir jusque-là à la démarche. Et c'est vraiment pour nous toujours un peu une considération. Parce qu'on ne fait pas juste un jeu pour le faire, d'abord et avant tout, il y a le plaisir de jouer qui doit être présent.
D'accord, tu as un dernier exemple en tête à nous décrire?
Alors, une création qui a beaucoup fonctionné sur la ville de Bourg-en-Bresse, dont on est très fiers là-dessus, c'est des zombies contre survivants. Donc, c'est des soirées qu'on organise avec les réseaux de la ville et le CLJ, le Centre Loisirs Jeunesse, sur une thématique qui plaît beaucoup aux jeunes ados, les zombies, et comment on arrive à créer un jeu de survie, là où il faut survivre pendant 2 heures, poursuivi par des zombies. Et comment ça nous échappe quelque part, cette création de jeu? C'est un bon exemple parce qu'on on est à devoir essayer de régler pour que ça fasse peur, mais on est quand même sur des tranches d'âge de 12 à 15 ans, là où il ne faut pas que ça soit trop effrayant non plus. Donc comment avoir des bonnes sensations, mais sans être traumatisé? Comment assurer des espaces de sécurité là-dessus, justement pour pouvoir sortir du jeu si ça ne nous plaît pas? Et la dernière chose, c'est que le jeu nous échappe, parce qu'en fait, on a découvert que la partie qui intéressait le plus les jeunes, c'était récolter des objets et les échanger aux différents marchands ambulants qu'il pouvait y avoir pour récupérer des munitions, pour récupérer d'autres choses, pour proposer justement une vision décalée de l'apocalypse arrive. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, peut-être qu'on aura plus de chance en se mettant ensemble, en troquant. Et c'est presque ce qui ressort plus du jeu que la thématique de base, qui disait « on va survivre ». Ben non, maintenant, c'est plus troc, marchandises et zombies.
D'accord. Et donc, du coup, aussi un peu d'interaction avec, tu dis, les marchands. Là, tu décris des jeux qui sont vraiment en extérieur, en relation. Tu mettais aussi en parallèle tout à l'heure les jeux de société qui sont différents. Mais du coup, il y a aussi les jeux en ligne, les écrans. Est-ce que votre approche utilise aussi le média, les écrans, ou est-ce que vous l'évitez pour une raison particulière ou pas?
Il n'y a pas de mauvais média pour moi. L'intéressement, c'est d'accompagner les publics là-dessus et de ne pas porter de jugement. Donc, ça fait 12 ans, ça fait 12 ans qu'on fait de la rue. Donc, on a eu des publics très différents avec des approches et des envies qui sont aussi différentes. L'idée, c'est vraiment de cibler le public et après d'aller vers eux, parfois avec des produits d'accroche, en se disant ils ont aussi besoin de retrouver des... Pour les plus jeunes, on parle de doudou-jeu. Le jeu dont on a l'habitude, le Monopoly, l'Uno, des choses où ils ont l'habitude de jouer. Là, on va pouvoir créer la première base, là, on va rentrer en interaction. Les jeux vidéo, ça rentre là-dedans. On a fait des temps d'été avec les médiathèques et puis avec les réseaux, justement, sur des temps de jeux vidéo en extérieur. Et qu'est-ce qu'on amène là-dedans et qu'est-ce qu'on va travailler dans la pratique? C'est pas juste de la pratique pour la pratique, mais comment on ramène aussi les filles sur l'extérieur à avoir envie ou... avoir leur place dans des espaces de jeux vidéo, comment on ramène des pratiques pour que les plus petits puissent jouer avec les plus grands, et parfois juste toucher la manette, parce que y a beaucoup qui disent jouer aux jeux vidéo, mais au final ils regardent les autres jouer, voir les grands frères, voir le père, voir la mère jouer. Donc comment on ramène une pratique là où on peut aussi découvrir des jeux qui sont adaptés? Et là on remercie grandement le réseau des médiathèques de la ville, parce qu'ils sont de bons conseils là-dessus, ils ont du matériel, ils sont partageurs et on échange souvent sur ce sujet.
Trop chouette cette approche-là, multipartenariale, je dirais, autour des acteurs de Bourg. Là, si on se reconcentre sur toi, le rôle que tu joues dans cette association, qu'est-ce qui te plaît plus dans cette activité?
La rencontre du public. Je dirais le moyen de médiation, je m'en fiche un peu. J'ai été amené à pratiquer un peu toutes sortes de choses. On fabrique des instruments de musique, on fait du jeu, on fait de la construction... des choses très différentes. Donc, ce qui se rapproche là-dedans, c'est la rencontre des publics et des gens, de leur tranche de vie. Moi, j'ai été animateur pendant un bon moment en périscolaire. J'adorais les midis discuter avec les gamins de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et je crois que c'est toujours ces histoires extraordinaires, ces parcours de vie qui sont parfois cabossés, parfois pas du tout, et qui sont toujours intéressants. La rencontre de l'autre qui va nous mettre des pépites dans les yeux parce que... Parce qu'on vit tous dans une société qui est bigarrée, chouette, pleine de couleurs. Et c'est ce qui me fait vivre.
Est-ce qu'il y a aussi des difficultés particulières que tu rencontres?
Ouais, et on a toujours des difficultés. Je pense qu'on en parle entre professionnels. Et souvent, moi, je retiens les bons moments. Sur 12 ans, on a eu des grosses problématiques, mais on a eu plein de moments heureux. Et je crois que c'est ce qui me pousse à continuer mon métier, parce que les problèmes, c'est un temps. Et on trouve des solutions sur le territoire. Et on a une grande chance, nous, de travailler avec des publics très divers. Et on peut avoir des publics qui sont très durs et avec des grandes difficultés. Et le lendemain, moi, je dis toujours, je vais faire une crèche, un RAM. Je travaille avec des tout-petits, des 0-3 ans. Et ils sont paisibles, il y a le sourire, il y a l'envie, il y a le vivre du présent. Le lendemain, bah, je peux repartir sur quelque chose de plus dur. Et puis voilà.
Qu'est-ce que tu dirais comme compétence particulière qu'il faut avoir pour exercer ce métier?
Jusque-là, chez nous, on embauchait, parce qu'on a eu 40 personnes qui ont travaillé à l'Armoire à Jeux en tant que salariés. On a toujours embauché plus sur l'empathie et le calme. Et depuis quelques années, on a dit qu'il y a des diplômes de base dans l'animation. Alors, non professionnel pour le premier, qui est le BAFA. Et après, professionnel. Pour ceux qui ont vraiment envie de travailler dans le jeu, il y a une formation à Lyon qui s'appelle FM2J, donc formation au métier du jeu et du jouet, qui est reconnue à l'international. Il y a des gens qui ont été formés là-bas, qui ont travaillé chez nous, et il y a une compétence qui en ressort au niveau théorique, au niveau pratique, sur la mise en place d'espaces de jeu, sur la création, sur plein de choses. Et je pense qu'il y a en effet maintenant des formations qui sont possibles. Mais c'est encore un milieu où j'ai des amis maintenant qui travaillent pour des gros éditeurs, Yellow, Asmodée, et qui ont commencé il y a 3 ans, qui ne travaillaient pas du tout dans le jeu, et qui maintenant sont responsables animation, qui sont parfois animateurs à l'année. Donc c'est un milieu qui est encore très poreux sur les entrées sans compétences professionnelles.
Merci pour cet aperçu, en tout cas, sur ton activité, sur l'Armoire à Jeux. On invitera les auditeurs à s'intéresser à cette association. Peut-être que certains vous ont déjà croisé, rencontré, créé avec vous. Une dernière question rituelle. Je voudrais savoir quel métier, toi, pique ta curiosité, te fait rêver et...
C'est des gens avec qui on travaille au quotidien. On travaille le recyclage et on a une autorisation de récupération sur les déchetteries de l'agglomération, donc on récupère énormément là-bas. Et c'est un métier qui n'est pas facile, le métier justement des gens qui s'occupent des déchetteries. Donc c'est des gens qui ont, on le disait, des parcours de vie, des sensibilités. On a récupéré des batteries entières, et ben, y en a un qui est musicien et on a discuté musique. C'est des gens qu'on voit par l'optique du tri et quelque part, des fois un peu violent, de j'ai besoin de jeter, je veux pas me prendre la tête, qu'est-ce que tu me dis ? Alors qu'ils ont une créativité et quelque chose d'extraordinaire là-bas. Donc si on me demandait qui inviter, ben, une de ces personnes-là, parce qu'il y a des pépites là-dedans encore.
Super, on va pouvoir trouver quelqu'un à interroger sur Bourg-en-Bresse. Merci Baptiste en tout cas.
Je vous en prie, c'était chouette de venir à Radio B pour une petite interview.
Merci Baptiste, merci Diane. Et c'est vrai que c'est une belle mission que tu nous as donnée. Je pense qu'on va essayer vraiment de trouver un invité qui travaille dans une déchetterie aux alentours, vu qu'il y en a plusieurs. On aura sûrement le choix. Merci de nous avoir écoutés sur Radio B. Vous pouvez suivre notre chronique tous les 3e mercredis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30 et toutes les émissions précédentes sur radio-b.fr. Et puis bien sûr, on est aussi sur toutes les plateformes de podcast.
Tu fais quoi dans la vie ?
Tu fais quoi dans la vie ?
Tu fais quoi dans la vie ?
Biologiste.
Travailleur social.
Agriculteur.
Frigoriste.
Menuisier.
Sophrologue.
Kinésithérapeute.
Chercheur.
Graphiste.
Cadreur.
Chaudronnier.
Tu fais quoi dans la vie ? Tous les mois, nous vous faisons rencontrer un ou une professionnelle.
Il ou elle partagera son métier et son quotidien.
Une chronique animée par Mélène et Diane.
Tu fais quoi dans la vie ? Est diffusée les 3e mercredis du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30 sur Radio B 90 FM.
Et en podcast sur radio-b.fr.